VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Le Monde Aujourd'hui de ce mardi 7 janvier 2020. Au microphone avec vous, je suis Irunée Hermanoubo en compagnie de
Anne Alberton pour vous présenter ce journal dont voici les titres.
Brouillé entre Téhéran et Washington, l'OTAN appelle à l'Iran à cesser toute provocation.
Au Tchad, les travailleurs du secteur public déclenchent à partir d'aujourd'hui une grève perlée. Ils exigent le rétablissement de leur statut.
Côte d'Ivoire, révision imminente de la Constitution. Alassane Ouattara tente de rassurer les Ivoiriens.
Plus de 300 demandeurs d'asile soudanais ont été arrêtés par la police au Niger. Ils sont accusés d'avoir incendié un camp des Nations Unies.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais tout d'abord le journal.
Au Niger, donc, plus de 300 demandeurs d'asile soudanais ont été arrêtés par la police. Ils sont accusés d'avoir incendié leur camp onusien près de la ville d'Agadez, dans le nord du pays. Le point avec Eka Badou.
335 demandeurs d'asile identifiés pour avoir participé à l'incendie de leur camp ont été interpellés et mis à la disposition de la police, a affirmé Seyni Saïdou, procureur du tribunal de grande instance d'Agadez. Ils sont poursuivis pour des infractions graves, dont attroupement non armé sur la voie publique et destruction volontaire de biens. Des incidents ont éclaté samedi après que des centaines de Soudanais ont été délogés des locaux du HCR, où ils avaient entamé un sit-in depuis le 16 décembre pour exiger l'accélération du traitement de leurs demandes du statut de réfugiés et leur acheminement vers l'Europe. Selon un responsable municipal, une fois ramenés sur leur site dans des bus, ils ont mis le feu au camp et ont jeté des projectiles sur les forces de sécurité. 290 habitations et l'infirmerie du camp ont été incendiées. Quelques 1400 Soudanais qui ont fui l'insécurité et l'esclavage en Libye vivent depuis 2017 dans ce camp, non loin de la ville d'Agadez. Ils manifestent souvent à Niamey ou à Agadez pour exiger l'accélération de leur transfert dans des pays d'accueil en Europe.
L'opposition guinéenne a de nouveau manifesté hier à travers le pays. Objectif, maintenir la pression contre la volonté du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Non à une nouvelle constitution, non à un troisième mandat pour Alpha Condé, pouvait-on lire sur des banderoles déployées dans un cortège de milliers de manifestants vêtus de rouge en signe de colère.
Les principaux opposants guinéens, dont les ex-premiers ministres Sélou Dalène Diallo et Sidya Touré, ont pris part à cette marche organisée par le Front National pour la Défense de la Constitution. De son côté, le chef de l'État a promis des lendemains radieux à ses partisans en effectuant une visite en province.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier qu'il va proposer au Parlement des modifications de la Constitution, assurant qu'il ne s'agira pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. Le point avec John Linden.
Dans le courant du premier trimestre cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente, pour consolider l'état de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens, a déclaré Alassane Ouattara hier pendant une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de caler qui que ce soit, tout le monde pourra être candidat à l'élection présidentielle. Je viens d'avoir 78 ans et je ne compte exclure personne, y compris moi-même, a ajouté le président ivoirien qui termine son deuxième mandat. Il n'a pas donné plus de précisions sur les modifications envisagées. L'opposition avait mis en garde contre une réforme qui limiterait l'âge des candidats, ce qui pourrait éliminer de la course les ex-présidents Laurent Gbagbo, 74 ans, et Henri Konan Bédié, 85 ans, mais aussi M. Ouattara lui-même. Il entretient toujours le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat.
Au Libéria, environ 3000 personnes s'étaient rassemblées auprès du siège du Parlement à l'appel d'un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition pour une troisième manifestation en 7 mois. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau quand les manifestants, se préparant visiblement à passer la nuit, ont refusé d'obéir à leurs ordres et de cesser de préparer le repas du soir.
Des manifestants ont renversé des étalages de vendeurs ambulants dans leur précipitation à fuir les lieux. Les ambulances ont amené des dizaines de personnes atteintes par les lacrymogènes ou tombées dans leur fuite, selon des témoins.
Au Tchad, les travailleurs du secteur public déclenchent à partir d'aujourd'hui une grève perlée pour exiger le rétablissement de salaires et autres avantages qui leur ont été coupés il y a 4 ans environ. L'annonce en a été faite hier à N'Djamena, alors que le président Idriss Déby Itno avait promis de payer graduellement ces avantages. Correspondance d'André Kodmajingar.
À travers ce débrayage de 3 jours renouvelables qui commence ce mardi sur l'ensemble du territoire national, les agents de l'État exigent le versement des augmentations générales spécifiques ou AGS, primes et indemnités et la restauration de salaires coupés depuis 2016. À l'inverse, le gouvernement propose un pacte social triennal garantissant un rétablissement progressif et graduel dont les effets financiers seront compatibles avec les moyens de l'État. Une proposition rejetée en bloc par les travailleurs réunis ce lundi en Assemblée générale à l'appel de la plateforme syndicale revendicative.
Il n'y a rien à aller jusqu'à 2021. Ce qu'il a coupé là, il restitue intégralement. Nous n'allons pas continuer à supporter cela.
Il ne sert à rien de faire le discours.
La liberté s'arrache.
Là où nous sommes là, nous sommes tous de mort debout. La grève là, doit commencer aujourd'hui.
Aller en grève, oui, mais sous quelle forme? Barca Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative.
Nous avons préféré que cette fois-ci, on commence d'abord par des grèves fermées. C'est pour permettre à notre comité de grève de penser à de nouvelles stratégies.
Seuls les hôpitaux et les centres de santé revitalisés sont autorisés à organiser un service minimum. Les tenanciers de bars et alimentation ferment également leurs portes, mais pour d'autres raisons. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La communauté internationale joue à l'apaisement dans la crise entre Téhéran et Washington. L'OTAN appelle l'Iran à cesser toute provocation. De son côté, le patron de l'ONU appelle à la retenue maximale. Le point avec Abdourahmane Dia.
Antonio Guterres appelle aussi les dirigeants du monde à renouer le dialogue pour stopper l'escalade. Les tensions géopolitiques sont à leur plus haut niveau du siècle et ces turbulences augmentent, a affirmé M. Guterres dans une déclaration au siège de l'ONU. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé l'Iran à éviter davantage de violences et de provocations à l'issue d'une réunion extraordinaire des ambassadeurs de l'Alliance Atlantique. L'avertissement est intervenu alors que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a convoqué vendredi ses homologues européens pour une réunion extraordinaire. Les États-Unis ont informé leurs partenaires au sein de l'OTAN de l'opération au cours de laquelle le général iranien Qassem Soleimani a été tué en Irak. Le chef de l'OTAN a souligné qu'il s'agissait d'une décision des États-Unis, pas de la coalition ou de l'OTAN. Il a par ailleurs appelé l'Iran à ne pas abandonner l'accord sur le nucléaire, alors que Téhéran a déclaré ne plus respecter ses engagements dans l'accord de Vienne.
Et au sujet d'un éventuel retrait des forces américaines d'Irak, l'AFP indique que les États-Unis, dans une lettre transmise par erreur, ont annoncé hier préparer leur retrait du pays avant de démentir. Un cafouillage qui vient s'ajouter à une situation ultra tendue depuis l'élimination à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, pleuré par des millions de personnes à Téhéran.
Le président sud-coréen Moon Jae-in a appelé mardi à redoubler d'efforts en matière diplomatique avec Pyongyang afin de permettre une visite à Séoul du leader nord-coréen Kim Jong-un, alors même que ce dernier vient de renoncer au moratoire sur les essais nucléaires.
Ce nouvel appel du chef d'État de centre-gauche, qui n'a jamais cessé de prôner le dialogue avec le Nord depuis son élection en 2017, intervient aussi moins d'une semaine après que M. Kim a menacé, lors d'une réunion du parti au pouvoir, de montrer au monde une nouvelle arme stratégique.
Un témoin potentiellement embarrassant pour le président américain, l'ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, John Bolton, s'est dit prêt à être interrogé lors du procès en destitution du président, à condition d'être formellement convoqué par le Sénat.
Cette annonce renforce la pression sur les élus républicains de la Chambre haute du Congrès, dont le chef Mitch McConnell refuse d'accéder aux demandes de l'opposition démocrate, désireuse d'entendre 4 hauts conseillers de Donald Trump. Le bras de fer entre les deux camps paralyse la procédure depuis la mise en accusation historique le 18 décembre par la majorité démocrate de la Chambre des représentants du président républicain pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent avec Nanit Talani.
Le Kenya prévoit de renégocier certains accords de prêt pour alléger le fardeau de la dette. Le gouvernement s'est engagé à porter sa dette, qui a dépassé 62% du produit intérieur brut, à un niveau plus soutenable, a déclaré le ministre des Finances, Ukur Yatani. Par ailleurs, ce dernier exhorte les agences gouvernementales nationales et les autorités locales à accélérer le paiement des factures impayées aux fournisseurs qui ont contribué au ralentissement et aux suppressions d'emplois. La société Ohorongo Cement, plus grande entreprise namibienne de fabrication de ciment, va céder 70% de ses actions à des investisseurs chinois pour plus de 105 millions de dollars, écrit l'agence Ecofin. L'entreprise, appartenant initialement à un groupe allemand, a été créée pour approvisionner les marchés namibiens et sous-régional. À pleine capacité, sa production est estimée à 700 000 tonnes de ciment par an. La transaction doit être approuvée par les autorités de la Namibie avant d'être validée. Pour terminer, la production de pétrole de l'OPEP a chuté en décembre dernier. Avec une baisse de 80 000 barils par jour, le Nigeria a exporté moins de brut à cause du site de Bonga qui est en cours de maintenance. De plus, les deux principaux producteurs, l'Arabie Saoudite et l'Irak, ont chacun réduit leur production de 50 000 barils par jour. En moyenne, l'organisation des 14 pays exportateurs de pétrole a pompé 29,5 millions de barils par jour le mois dernier, soit une baisse de 50 000 barils par jour par rapport à novembre.
Passons à la page sport de cette édition avec Eric Manirakiza. L'ancien gardien de but de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, Hans Tilkomski, est décédé à l'âge de 84 ans.
Le vice-champion du monde de 1966 est mort des suites d'une longue maladie. Il restera surtout connu pour l'affaire du but fantôme, l'un des plus controversés de l'histoire du football, encaissé lors de la finale du Mondial 66, perdu 4-2 en prolongation contre l'Angleterre. C'était à la 11e minute des prolongations et le score était de 2-2. Ce 30 juillet 1966, le tir de l'attaquant anglais Geoff Hurst frappe la barre transversale du but de Tilkowski, puis rebondit au sol devant ou derrière la ligne, malgré les protestations des joueurs allemands. L'arbitre suisse, après avoir pris l'avis formel de son assistant, accordera le but qui menera au triomphe des Anglais. Ce but aura traumatisé Hans Tilkowski, qui avait du mal à évoquer cet épisode douloureux. « Je mourrai avec la certitude que le ballon n'était pas entré », avait-il déclaré. Sa carrière internationale s'achèvera en 1967, après 39 sélections. À seulement 31 ans.
Coupe de la Ligue anglaise, Manchester City affronte Manchester United en demi-finale.
Si le titre de champion d'Angleterre semble irrémédiablement perdu, Manchester City aura à cœur de conserver les deux coupes nationales qu'il détient, à commencer par la Coupe de la Ligue, pour laquelle il va défier United en demi-finale aller aujourd'hui. Un vrai test puisque la défaite en championnat de 1 à domicile contre les Red Devils et moi, jour pour jour avant le match aller, avait sérieusement écorné leur rêve de tripler en Premier League.
Nouvelle performance majeure de Liverpool.
L'acteur leader de Premier League a de nouveau créé la sensation en battant son rival Everton 1-0 avec une formation essentiellement composée de joueurs de moins de 22 ans, notamment le jeune Harvey Elliott, 16 ans. Liverpool n'a encaissé un but depuis près de 9 heures de jeu, toutes compétitions confondues.
Dakar 2020, la deuxième étape pour le Sud-Africain de Villiers, Alonso déjà distancé.
Il a remporté lundi la deuxième étape du Dakar 2020 après 401 km, dont 367 de spécial entre Al Wajj et Neom en Arabie Saoudite, où Fernando Alonso a perdu une roue et plus de 2 heures. De Villiers, distance de 3 minutes et 57 secondes, l'Argentin Orlando Terranova, nouveau leader du général devant l'Espagnol Carlos Sainz. Pour terminer, quelques résultats du basketball en NBA.
Merci Eric Manirakiza. Ici aux États-Unis en NBA, Charlotte contre Indiana 104 à 115, Orlando Brooklyn 101 à 89, Philadelphie contre Oklahoma City, 120 à 113. Washington contre Boston, 99 à 94. Atlanta contre Denver, 115 à 123. New Orleans, Utah, 126 à 128. Dallas contre Chicago, 118 à 110. San Antonio, Milwaukee, 126 à 104. Sacramento, Kings, Golden State, 111 à 98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irene Herman. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Human Rights Watch s'alarme de la flambée d'atrocités commises par les islamistes armés au Burkina Faso. Depuis avril 2019, l'ONG affirme avoir dénombré dans ce pays plus de 250 civils tués dans des attaques ou sommairement exécutés. Ces violences ont forcé des centaines de milliers de Burkinabés à fuir leur domicile. Notre Human Rights Note, Human Rights Watch, Timothée Donagmaï, s'est entretenu à ce sujet avec Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
La flambée des violences a passé dans un contexte d'une détérioration des sécurités et des respects des droits humains en général dans la Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. À partir de 2016, quand les attaques ont commencé à Burkina Faso, les djihadistes ont commencé pour attaquer le représentant de l'État, c'est-à-dire les élus, les chefs de village, le maire, les enseignants, avec le but de vider l'espace de leur représentation gouvernementale. Mais à partir du fin 2018, en 2019, ils ont commencé à faire les attaques contre le hameau et le village entier. Donc ça avait vraiment devenu beaucoup agressif. On a documenté 250 personnes tuées, assassinées, ciblées, mais il y en avait beaucoup des incidents. On a documenté 20 incidents, mais il y en avait beaucoup des incidents qu'on n'a même pas touchés. Donc ça veut dire que c'est quand même plus grave que ça.
Un aspect de ce conflit qui inquiète Human Rights Watch, c'est le recrutement par les djihadistes de militants au sein des communautés locales.
Exactement. Donc, il y a plusieurs dynamiques qui soulignent le flambe des violences. D'abord, c'est que les djihadistes, depuis 2015 au Mali, ont concentré leur recrutement envers une communauté. Ça, c'est la communauté Peul ou Fulani. Ils ont exploité leurs revendications envers la pauvreté, la corruption, etc. Donc, ça a engravé, attisé la tension ethnique. Parce que la plupart des victimes qu'on a trouvées, que c'est la plupart, c'était de la communauté Fulsé, Moussi, Songoé, Goromache, qui sont la communauté surtout agriculteur. Ça, c'est une dynamique. L'autre dynamique, c'est la stratégie antiterroriste qui a adopté le gouvernement burkinabé, qui a engagé dans un punissement collectif contre la communauté Peul. Il y a un certain nombre des Peuls qui ont été exécutés par le gouvernement, et cette situation a fait que remplit le rang des djihadistes.
Les djihadistes qui essaient aussi, Corinne, d'exploiter le sentiment religieux.
Absolument. Et je crois que pour les djihadistes, les combien le désordre total et ils ont essayé de profondeur les tensions ethniques, politiques et religieuses parce qu'on a documenté plusieurs attaques qui ont ciblé les chrétiens.
Quelle est la solution à cette crise, Corinne?
Le Burkina Faso, c'est un pays très important aussi pour les djihadistes, pour leur projet d'expansion parce que le Burkina Faso, c'est le pont entre le Sahel au nord et l'Afrique au sud, le Ghana, le Bénin, les autres endroits. Donc, la solution pour moi, c'est d'abord, tous les groupes armés doivent faire la distinction entre qu'est-ce que c'est une cible militaire et qu'est-ce que c'est une cible civile.
Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Congo-Brazzaville, quatre sympathisants de la dynamique à incarner l'espoir ont été écroués. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils été arrêtés? Nanita Talani a joint Andrea Gambé depuis Paris en France, président de la dynamique à incarner l'espoir, et candidat déclaré à la présidentielle de 2021 au Congo.
Nous avons 4 militants incarcérés, M. Odjej Mabeda Parfait, M. Saboukoulou Loubaki Frank Donald, M. Nyangé Osebidjil et M. Dissivoulou Neldri Rolf. Le plus jeune a 18 ans, 19 ans à peine, et le plus âgé en la trentaine d'années.
Quand ont-ils été arrêtés et de quoi sont-ils accusés? Qu'est-ce qu'on leur reproche?
Ils ont été arrêtés respectivement en novembre et pour les trois autres en décembre 2019. Au motif d'atteinte à la sécurité de l'État, donc sécurité intérieure de l'État, mais en réalité, d'après ce que nous avons comme retour, on leur reproche leur participation à la dynamique incarnée l'espoir.
Et qu'est-ce qui va leur arriver maintenant qu'ils ont été arrêtés?
Ils ont été déférés devant le parquet, devant le juge Aristide Kassa, et si la procédure est suivie jusqu'à son terme, ils devraient être jugés pour les motifs qu'ils sont reprochés.
Quand seront-ils présentés devant le juge?
Ils ont été présentés une première fois, c'était le 23 décembre dernier. Donc nous attendons de voir qu'est-ce que va décider le juge finalement. Nous sommes en train de travailler en relation avec les protecteurs des droits humains afin d'avoir un peu plus de clarté sur cette affaire et s'ils devraient passer en jugement ou pas, parce qu'en vérité, leurs droits sont complètement violés en ce qui concerne les détentions préventives d'individus dans la loi congolaise.
Est-ce qu'il y a des preuves qui vont dans le sens des accusations portées contre eux?
En tout cas, de la part de la dynamique incarnée l'espoir, il n'y a aucune preuve possible puisque nous n'avons appelé ni à un soulèvement, ni à rien du tout. Nous prenons la logique des urnes et nous ne sommes pas dans des logiques ni insurrectionnelles, ni de renversement brutal des institutions.
Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour leur défense?
Pour leur défense, nous avons saisi déjà les différents protecteurs des droits de l'homme, en commençant par l'OCDH, la REDAC au niveau Afrique centrale et Amnesty International aussi a été saisi. Donc nous allons être aux côtés de nos militants et leur fournir les conseils d'un avocat afin qu'ils puissent se défendre et être libérés de cette incarcération. Notre cas le plus cher, c'est celui d'appeler Monsieur le juge Okassa de simplement libérer ces 4 jeunes individus et de ne pas persévérer dans une logique d'intimidation politique.
Et vous pensez que ça va changer quelque chose? Que vous allez vraiment réussir à les libérer?
Oui. Nous sommes confiants parce que nous n'avons rien à nous reprocher et nous pouvons prouver notre bonne foi tant sur le terrain qu'à l'international. Nous sommes dans des logiques de réconciliation et de rapprochement des Congolais. Nous n'avons jamais été dans des logiques de renversement ni d'atteinte à la sécurité de l'État.
Andrea Gombe, joint par Nanita Talani.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En République démocratique du Congo, les Banyamulenge ont donné mandat à un collectif d'avocats pour saisir la justice sur les tueries dans les hauts plateaux du Minembwe, dans le sud Kivu. Edi Sango a joint à Bruxelles le conducteur du collectif, Maître Bernard Méguin.
Dans des circonstances où des théories variées diverses circulent concernant ce qui se passe dans cette région de Minembwe, les victimes souhaitent avoir des éléments de preuve et avoir des éléments sérieux et crédibles pour pouvoir les porter en justice, de préférence dans leur pays, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, en amenant ces éléments auprès des autorités chinoises. Et bon, si contre toute attente, et j'espère que ce ne sera pas le cas, il ne devait pas y avoir de suite, effectivement, en demandant que les mêmes éléments de preuve soient amenés auprès des autorités à l'AE. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Où en êtes-vous avec ces mandats et cette commission qui a été constituée en rapport avec les gouvernements? Parce que les gouvernements ont mandaté plusieurs missions d'enquête sur place.
Nous avons d'ores et déjà constitué l'équipe d'avocats. Nous avons reçu des mandats écrits de plusieurs dizaines de victimes de Minembwe et nous avons également fait la démarche d'écrire des courriers auprès des services de la MONUSCO et auprès des autorités congolaises, parce que la mission que les victimes nous ont confiée est une mission qui s'inscrit dans le cadre de l'état de droit et dans le respect de l'état de droit. On nous parle beaucoup d'être prudent parce que Minembwe est une zone qui reste assez guerrière, mais c'est aussi un des enjeux de ce ce dossier, c'est de permettre à des avocats, à la presse, parce que nous avons des journalistes qui souhaitent se joindre à nous, de se rendre sur place et de procéder à des constats, à entendre des témoins.
Mais les victimes, il y en a des parts et d'autres, ce sont des communautés qui s'affrontent.
Mon objectif, à moi, c'est, ayant reçu cette mission, de mener cette mission en toute indépendance, de voir ce qui peut être soumis aux autorités judiciaires, et dans ce contexte-là, le soumettre à des autorités judiciaires qui vont à leur tour travailler à la recherche de la vérité.
Ça, c'est les volets justice, mais on sait que le problème peut aussi être politique, parce qu'on parle des chefferies coutumières dont les chefs qui ont les droits ont été remplacés par ceux qui n'ont ni qualité ni droit.
Commencer à transférer le débat politique dans le débat concernant finalement les grands commandements du droit pénal, c'est-à-dire l'interdit du meurtre, l'interdit de l'assassinat, des coups et blessures, de mettre le feu au bien d'autrui. Mettre là de l'analyse politique, ça a une place, mais cela ne relève pas du métier de l'avocat. L'avocat doit rassembler les preuves et veiller à ce que les auteurs de crimes soient poursuivis en justice.
C'était à l'instant maître Bernard Menguin du collectif des avocats de Banyamulenge depuis Bruxelles.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Des dizaines de milliers d'Iraniens en pleurs ont envahi les rues de Téhéran pour accueillir le corps du général Qassem Soleimani tué à Bagdad dans une frappe de drone américain. Hier, l'Iran a fait savoir qu'il ne se conformerait plus aux obligations de l'accord de 2015 sur le nucléaire. Les explications d'Arash Arabazadi avec le récit d'Abdourahman Dia.
C'est une foule impressionnante qui a accompagné le cercueil du général Qassem Soleimani. Un tir de drone américain l'a tué vendredi. La frappe, qui a aussi tué ceux qui l'accompagnaient, survient quelques jours après que des manifestants ont envahi l'ambassade américaine à Bagdad. En réaction, le Parlement irakien a, dans une résolution, demandé au gouvernement d'expulser les troupes américaines. Le président Trump justifie la frappe par une menace imminente contre les intérêts américains.
Il mijotait les attaques contre les Américains. Mais maintenant, nous avons fait en sorte que ces atrocités soient arrêtées pour de bon. Elles sont arrêtées pour de bon. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passait, mais ils prévoyaient une attaque très importante et nous l'avons eue.
Certains estiment que les raisons avancées pour justifier l'attaque sont légères et mettent la vie d'Américains en danger. Mais le secrétaire d'État Mike Pompeo défend la décision.
Pour les hauts responsables qui avaient accès à toutes les informations, il n'y avait aucun doute. L'évaluation des renseignements est claire. Permettre à Soleimani de poursuivre son complot et sa planification, sa campagne de terreur, crée plus de risques que l'éliminer comme nous l'avons fait la semaine dernière.
Trump dit qu'il ne veut pas de guerre avec l'Iran, mais samedi, sur Twitter, il a menacé de frapper des sites culturels iraniens si l'Iran ripostait. De l'avis de Mike Pompeo, il n'y aurait aucune violation du droit international. Du côté du Parlement iranien, des législateurs se radicalisent au cri de mort à l'Amérique. La tension n'a jamais réellement baissé entre l'administration Trump et l'Iran depuis la sortie en 2018 des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Hier, l'Iran a annoncé qu'il ne respecterait plus aucune règle de cet accord, suscitant de nouvelles inquiétudes des Européens et de la Chine qui demandent à Téhéran de ne pas abandonner l'accord.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la tension entre les États-Unis et l'Iran est montée d'un cran après la mort dans un raid américain en Irak du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran promet de venger l'ancien chef des forces al-Quds, des puissants gardiens de la révolution, et a annoncé dans la foulée qu'il ne respecterait plus ses engagements sous l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. De son côté, le président Trump a indiqué que 52 cibles iraniennes ont été identifiées pour des frappes en cas de riposte. Nous allons évoquer la genèse de la crise entre Washington et Téhéran ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irune Hermanoumba à Washington. Bonne journée à toutes et à tous. À l'écoute de VOA Afrique. Restez au cœur de l'actualité en visitant bien évidemment notre site internet www.voafrique.com.